L'affirmation d'existence singulière, il représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Cécile !
Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ?
Ce son, c'est celui qui nous glace le sang depuis 20 jours.
Oh là là, c'est horrible. Des gens qui applaudissent.
C'est le bruit tumultueux qui nous réveille la nuit depuis une vingtaine de jours. Nous et un bon nombre de personnes, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Ce son, c'est le son du peuple français qui acclame sa police. Le 11 janvier, dans les rues de Paris.
Non, c'est pas possible. Ça n'a pas vraiment existé.
Face à cette horreur, on a plusieurs hypothèses. La plus probable, celle qu'on a croisée ces derniers temps sur Internet, ce serait celle d'un vaste complot. Donc il y a certaines vidéos sur Internet qui nous montrent comment en fait les applaudissements n'étaient absolument pas dédiés à la police et comment l'État se fout de notre gueule depuis 20 jours. Quoi. Non, le peuple français n'a jamais acclamé sa police, évidemment.
Oui, tout à fait. Les experts se relaient pour démontrer la véracité de cette théorie du complot qui mettrait en scène effectivement des éléments complètement contradictoires et en fait qui nous sauverait un peu la peau et qui mènerait à croire que le peuple français n'a pas vraiment acclamé sa police et n'a pas vraiment enterré l'esprit de mai 68 comme on peut penser à le croire en écoutant ça.
Entre autres, il y a une vidéo sur YouTube qui montre comment plusieurs personnes qu'on a vues embrasser la police étaient en fait des policiers en civil qui s'étaient cachés, masqués parmi les manifestants. Voilà, alors cette théorie, on ne peut pas être en voie de confirmation, hein, évidemment. On a déjà croisé au moins une trentaine de personnes qui avaient assisté à ces manifestations et qui disent n'avoir jamais assisté à ça. Et voilà, du coup, si vous avez d'autres témoignages qui vont dans ce sens, vous pouvez nous écrire à Vacarme en Réunion pour qu'on puisse essayer de déceler le vrai du faux dans toute cette sombre histoire d'applaudissements et d'acclamations policières.
Ah ouais, comme quoi on peut vraiment rire de tout. Mais bon, à Vacarme en Réunion, on va pas se soucier que aujourd'hui de sauver le pauvre peuple français qui nous a tant fait honte et qui nous hante depuis plusieurs semaines. On va aussi prendre les choses à bras le corps et essayer de s'interroger sur qu'est-ce qui s'est passé et sans donner trop de profondeur au mouvement Je suis Charlie, essayer d'en dire quelque chose pour se démêler un peu et créer un peu d'espace dans l'étouffement et dans l'écrasement qu'on a pu ressentir après les attentats et après cette espèce d'unité nationale, cette espèce de communion derrière les gouvernements et derrière la police, même si évidemment c'était beaucoup plus ambigu que ça.
On a croisé beaucoup de gens depuis 20 jours, effectivement, qui soit étaient à la manifestation et qui ont quitté cette manifestation parce qu'ils étaient venus rendre hommage aux gens qui étaient morts à Charlie Hebdo et qui se sont retrouvés un peu piégés dans l'espèce de vaste acclamation de la République française, des drapeaux, de la Marseillaise, de la police, etc. Et on a croisé aussi beaucoup de gens qui étaient simplement écrasés un peu par ces événements. Et du coup, voilà, on l'annonce aujourd'hui, c'est le grand jour de la contre-attaque face à toute la campagne médiatique, etc., et à essayer de déceler et de faire sortir un peu des discours un peu plus intelligents et un peu plus critiques face à tout ça. En tout cas, de notre part.
Voilà, du coup, ce à quoi on a assisté, c'est à une affirmation massive de soutien d'un peuple vis-à-vis d'un État. Ça, c'est un espèce de désir, un puissant désir d'État qui a prétexté la liberté d'expression pour envahir les rues. Et Après ça, il y a eu tout un tas de tentatives de rattrapage pour questionner qui c'est les gens qui ne sont pas Charlie, etc. Mais reste que ce qui est apparu à ce moment-là est sans ambiguïté sur certains points et sur la nature des institutions qui nous surplombent. Et c'est pour ça qu'on voulait, dans un premier temps, donner la parole, enfin pas donner la parole, mais vous faire entendre une historienne de la Révolution française qui s'exprime sur le mouvement Je suis Charlie et qui montre en quoi cette manifestation est typique de la Ve République. Donc tout de suite, on va vous passer l'extrait sonore. Donc l'historienne, elle s'appelle Sophie Vaniche. Vous pouvez retrouver la vidéo qui est une discussion avec Alain Badiou, le philosophe, où il tente d'analyser un peu la nature de cette manifestation sur Mediapart. Ça s'appelle Après la tuerie. Du coup, on vous envoie le son, Sophie Vaniche.
Je suis Charlie, je suis musulman, je suis juif, je suis flic. Nous sommes tous républicains, mais nous sommes tous républicains, ou mais surtout républicains, un truc comme ça. Il me semble que dans ce jeu et dans cette juxtaposition de tout, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le policier tout seul ou le flic tout seul, il y avait quelque chose qui ressemble plutôt, il n'y a plus ni juif ni chrétien, ou que des chrétiens peut-être dans l'universalisme chrétien, en tout cas plus de différenciation et une désidentification, on peut
mais
se mettre dans tous les personnages.
Disait, je suis Charlie. Le « je suis Charlie » que vous dépeignez sur votre poitrine ne disait pas « nous sommes tous républicains ».
C'est-à-dire que ça désidentifiait le flic comme flic. C'est-à-dire que ça le mettait dans une série où on pouvait se mettre soit dans la position de Charlie, soit dans la position de musulman, soit du juif, soit du flic, soit du républicain. Et donc pour moi, c'était surtout un énoncé de désidentification et confus. Parce que je ne crois pas que cette série veuille dire grand-chose aujourd'hui.
Ce que vous dites est absolument vrai. Et en même temps, on a observé les forces de l'ordre acclamées
oui,
par des foules. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau en France depuis
oui,
des années.
Mais là,
ça,
c'est pas l'identification. C'est de la demande
de
protection.
C'est un phénomène.
Et pour moi, c'est
un phénomène intéressant aussi pour un.
Mais bien sûr que c'est intéressant, mais c'est à nouveau pas politique. Nous sommes tous des policiers, mais nous avons tous besoin de policiers. Ça rejoint la question de la peur. Donc, c'est à mon avis, c'est d'un autre ordre. Après, sur ce qu'il en est de la possibilité ou pas, dans un pays comme la France, de reconnaître à égalité toute sa population. Parce que ce que vous avez posé comme question, c'est ça. C'est est-ce qu'on est dans une république démocratique, au sens où, si elle est démocratique, elle suppose l'horizon d'égalité, le trait d'égalité. Et en l'occurrence, je vais commencer par évoquer un autre historien, qui est Todd Shepherd, qui est un historien américain, qui a écrit un livre sur 1962, « Qu'est-ce que la guerre d'Algérie a fait à la République française ?» Et en fait, il interroge la constitution de la République française en tant que 5e République, en tant qu'elle devient une République blanche, ce qu'elle n'était pas sous la 4e, puisqu'on avait un Parlement avec 55 députés algériens qui, du jour au lendemain, ont été renvoyés chez eux, bien du jour au lendemain. Et que, dans le contexte de la mise en place des institutions de la 5e, quelqu'un comme Michel Debré peut tout à fait dire qu'auparavant, on ne pouvait pas avoir le suffrage universel. Vous comprenez bien qu'on aurait eu la population musulmane algérienne et la population noire africaine, et que donc le suffrage universel ne pouvait se concevoir que dans le contexte métropolitain, dans une certaine mesure, blanchi. Voilà ce que dit le livre de Todd Shepherd, qui décrit précisément la manière dont le combat entre Gaston Monnerville, à ce moment-là président du Sénat guyanais, d'origine guyanaise, donc tout à fait noire, et de Gaulle, se joue aussi entre une figure de la possibilité de l'intégration noire et la possibilité du blanchiment de la métropole. Et donc il y a quelque chose pour moi qui est apparu aussi immédiatement, c'est que c'est des manifestations manifestement blanches et que pour moi on était dans, ben voilà, on est dans une manifestation typique de la 5e République. C'est-à-dire qu'on ne refonde pas la République démocratique, on refonde la 5e. Et il se trouve que cette 5e République, ce n'est pas la seule République possible en France, qui a différents modèles républicains, et que pour le coup, la République de la Révolution française, ce n'est pas celle-là. La question qui se pose dans une société comme la société française, c'est dans quelle mesure la liberté des uns est vécue comme réciproque vis-à-vis des autres et quels sont les espaces qu'ils permettent. Finalement, ce qui manque, c'est des espaces communs pour fabriquer une cité commune et que la désidentification, elle passe par la possibilité d'un projet subjectif commun politique. Et que la grande difficulté actuelle, c'est de trouver ces espaces politiques. C'est-à-dire qu'on ait 15 ans, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 30 ans, qu'on ait 50 ans, ils n'existent pas. Nous n'avons pas aujourd'hui de lieu du politique, de sociabilité politique spontanée, et donc on n'a pas d'endroit pour trouver finalement la possibilité de se croiser sur un mode qui soit subjectif. Donc les croisements actuels sont des croisements qui vont à l'opposé de ce qu'était la Révolution française, c'est-à-dire que la question de l'identité a pris le pas sur la question de la subjectivité. Je pense que cette mobilisation, elle n'est pas en soi politique. Elle est refondatrice de quelque chose qui permet de savoir qu'on appartient à la même société pour ceux qui étaient dans cette manifestation ou ceux qui se sont reconnus dans cette manifestation. Mais faire de la politique, c'est mettre en scène le tort. C'est pas juste se reconnaître dans le commun. Et donc, à savoir où sont les partages, assumer la conflictualité et l'élaborer. Et ça, je vois pas la conflictualité s'élaborer. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, si on était dans l'élaboration de la conflictualité, ce que je viens de raconter sur la Ve République, ça serait le cœur du débat.
On voulait vous proposer tout au long de l'émission un petit tour du monde du terrorisme intérieur en musique. c'était un petit son irlandais, un petit son rebelle irlandais. Et maintenant, on va se tourner vers Grigny, et plus particulièrement le quartier de la Grande Borne, où nous sommes allés traîner nos guêtres, comme on fait souvent à Vacarme en Réunion. Parce que Grigny, comme vous le savez, c'était l'endroit où a grandi un des terroristes, Hamedi Coulibaly. Et donc, il y a eu une grosse pression médiatique et politique qui s'est exercée sur ce quartier. Et ça nous tenait à cœur d'aller rencontrer les gens là-bas, d'abord pour savoir... qu'est-ce qu'il en était de leur point de vue, qu'est-ce qui se passait, comment ils ressentaient les choses et comment ils tentaient de les penser pour leur part. Et ensuite, la deuxième raison, et peut-être qu'elle nous est apparue une fois avoir rencontré des gens là-bas, avoir discuté avec eux, avoir élaboré un peu une pensée avec eux, c'était que ça correspondait en fait à ce que dit Sophie Vanish dans l'extrait qu'on vient de vous dire, c'est-à-dire ouvrir des espaces proprement politiques, qui mettent à mal l'unité nationale, qui mettent à mal la constitution de cette espèce de... la refondation de l'espèce de communauté politique derrière la Ve République, espèce de communauté très particulière, même si elle est ambiguë. Et donc, pour mettre à mal l'étouffement que ça crée à la fois pour des gens dans les banlieues et à la fois pour des gens qui ont l'habitude de lutter contre l'État et contre toutes sortes de politiques. Voilà, cette rencontre, elle a permis ça. Elle a permis d'ouvrir un espace de dialogue qui est proprement politique et qui permet de faire table rase de tous les discours idéologiques, de tous les discours dégoûtants qui ont pu paraître écrasants et d'ouvrir complètement autre chose. Du coup, c'est Hamid qui s'exprime dans ces petits extraits qu'on va vous faire écouter. Alors, Hamid, il occupe une position assez particulière et c'est important de le savoir pour comprendre d'où il parle. C'est-à-dire que on pourrait dire que c'est un habitant de Grigny. En même temps, c'est pas que un habitant de Grigny. C'est-à-dire que c'est un travailleur social. Il est tout le temps en contact avec les habitants et c'est à la fois aussi un militant politique. Il va toujours au contact. On pourrait dire que c'est un peu un trouble-fête, quoi. À la fois, il est dans le jeu politique du quartier et en même temps, il est toujours là comme une espèce de force d'opposition à lui tout seul. Il vient toujours un peu troubler le jeu habituel et c'est pour ça que c'est intéressant de discuter avec lui parce que voilà, il pense plein de choses, il apporte plein de choses. C'est un habitant et en même temps, c'est pas un habitant. Et du coup, on va vous faire écouter ce qu'il a à nous dire et on le commentera parce qu'évidemment, on n'est pas d'accord avec tout.
Les habitants de Grigny sont doublement en deuil. C'est-à-dire que pour eux, ils condamnent les assassinats. Ils sont convaincus que c'est un assassinat, un crime de masse, ou comment on peut le dire. Et donc ils condamnent. Pour autant, il y en a qui veulent pas. Il y en a qui se reconnaissent pas dans Charlie. Je me reconnais pas dans Charlie. Pourtant, je suis un lecteur de Charlie. Et je me reconnais pas. Enfin, en tout cas, les gens se reconnaissent pas. Mais pourtant, on peut condamner. Condamne, c'est pas on peut, il condamne les faits, je dirais, il condamne les crimes, ça c'est une certitude. Et donc ils se reconnaissent pas dans Charlie pour plusieurs raisons. Alors moi c'est pas pour les mêmes raisons, mais eux en tout cas, parce qu'ils considèrent qu'il y a une caricature, donc ils veulent pas être du côté de la caricature, parce qu'ils trouvent que c'est insultant et humiliant. Et les gens ils sont double deuil parce que les gens ils se sentent coupables d'avoir aimé quelqu'un qui a grandi avec eux. C'est dur pour eux, effectivement. Donc si tu veux traiter une situation locale, tu vas la traiter d'un point de vue, d'abord dans un premier temps affectif, c'est-à-dire les gens ils sont touchés par ce qui s'est passé, d'autres se sont coupables par rapport à ce qui s'est passé, et le fait que toute la presse concentre, la presse et les politiques concentrent focalisent sur les Grigny et plus particulièrement sur les habitants de la Grande Borne, c'est encore une autre chose. Donc les gens de la Grande Borne, ils sont fatigués, ils n'ont plus envie de parler de ça, ils n'ont plus envie, eux ils voudraient tourner la page. C'est des vies brisées, ils se sentent humiliés parce qu'on pointe quelque chose dans lequel ils n'ont aucun moyen de répondre. Ils se désolidarisent, mais en même temps, on condamne aussi le fait qu'on ait utilisé les caricatures et le blasphème pour montrer du doigt les plus pauvres. Tu comprends, les gens les plus désarmés, tu vois, et on ne se retrouve pas au même niveau pour parler de cette situation-là. Donc, on ne trouve pas le bon mot, on ne trouve pas les bons mots, on ne trouve pas le bon lieu, on ne trouve rien. Donc les gens, ils essaient de trouver un espace qui soit ni Charlie, ni anti-Charlie, mais un autre espace, qui puisse condamner ce qui a lieu, sans pour autant renier leur foi ou ce qu'ils sont. Pour eux et pour moi, il existe un autre espace que Charlie. Il existe un autre espace d'intellectualité qui condamne les crimes et qui, ouais. dans lequel ils ne sont pas adossés à Charlie. Ce qu'ils n'ont pas accepté, c'est de dire qu'à un moment donné, on organise politiquement quelque chose contre les habitants de Grigny, et notamment contre les musulmans. Qu'il y a une confusion de tout ça. Et donc il y a des confusions des deux endroits. Mais et qu'on en a fait un crime religieux.
Quand tu dis on a organisé des trucs contre
que l'État a organisé. Ouais.
Tu penses à quoi?
Bah
c'est médiatiquement quoi, le rapprochement qui a été fait.
Par exemple, on ne parle jamais des frères Kouachi, très peu. On parle que d'Amédi Coulibaly. Pourquoi on a besoin de parler que d'Amédi Coulibaly? Parce que Amédi Coulibaly, il a vécu à la Grande Borne. Grande Borne, quartier. Donc on parle de l'apartheid de comment il s'appelle
Valls.
De Valls. On parle du ghetto. Donc on réintroduit des mots corrompus qui n'ont rien à voir. Mais on ne parle pas de la réalité internationale. Donc on parle simplement, on en fait une histoire locale. Mais on ne peut pas le faire avec les frères Kouachi. Parce que les frères Kouachi, c'était à Paris, et puis ils viennent de Corrèze. Donc la thèse de la banlieue où les gens, les musulmans qui habitent dans les quartiers chauds, tout ça et tout, ça ne marche plus leur thèse là-dedans. Donc on a besoin de centrer sur Amédi Coulibaly. Je pense que c'est une erreur analytique grave. Je pense que c'est pas ça du tout. Et donc pourquoi on a besoin d'utiliser aussi le terme de. Comment on appelle ça merde, j'ai oublié le nom. Apartheid. D'abord, apartheid, il n'est pas employable. Mais en même temps, en utilisant apartheid, on remet cette question de ce qui a eu lieu, des assassinats qui ont eu lieu, au cœur des problématiques de la banlieue. C'est-à-dire que c'est la banlieue qui génère ça. C'est la banlieue qui procure ça. C'est un drame. C'est pas du tout ça. Là, il y a une ruse de la raison. On triche avec les gens. C'est pas vrai.
Ah tiens.
Moi, j'apprends à la télé que... Comment il s'appelle que Amédi et les frères Kouachi sont connus. Enfin, qu'Amédi, il est connu comme étant entré en contact avec les frères Kouachi et Belkacem en prison. Mais donc, avec des gens qui étaient déjà impliqués dans les formes de terrorisme, de ce qu'on nomme le terrorisme. Donc, la CIA était au courant, les Américains sont au courant, les services secrets sont au courant, le monde entier, enfin, les services secrets du monde entier sont au courant, comme quoi. Et à Grigny, comme dans d'autres villes, il existe ce qu'on appelle un CLS. Un CLS, c'est un contrat local de sécurité. Dans ce contrat local de sécurité, on rassemble toutes les institutions, l'inspection académique, le préfet, donc, qui représente l'État, les commissaires de police, on rassemble tout le monde. Et dans cet espace institutionnel, il s'agit de faire le point sur des jeunes qui seraient en rupture ou qui seraient tentés de déraper ou d'être conduits à des formes de délinquance. À un moment donné, moi, ils m'ont jamais. Je participais à ces CLS. Mais pas que j'apprécie du tout, mais ça fait partie de mes missions. Pas une seule fois dans ce CLS, on m'a parlé d'Amédi Coulibaly. Pas une seule fois, on m'a rien dit. Moi, je m'interroge pourquoi ça n'a pas été mis en place. Qu'est-ce qui fait que. Ça, c'est le premier point.
C'est qu'on vous fait pas confiance aussi.
Mais bien sûr, on nous prend pour des voyous, ça, c'est
on
certain.
Attend que vous donniez des informations, mais ça marche pas.
C'est pas une histoire locale. On doit traiter cette question d'un point de vue international. Et non quelque chose de strictement local. Je veux dire, c'est les banlieues, les quartiers comme les nôtres et tout ça, sont pas le lieu. On fabrique pas des terroristes ici. C'est pas vrai. Je veux dire, la preuve, c'est qu'il peut y avoir des gens qui ont été endoctrinés en dehors de Grigny, qui auraient pu être endoctrinés à la campagne, qui auraient pu être endoctrinés n'importe où. Donc c'est des choses. Après, d'autres gens qui vont penser que c'est un acte politique. Pour moi, c'en est pas un. Pour des gens, c'est un acte politique. Donc il faut.
Pour des gens dans le quartier, tu veux dire?
Oui, pour des gens dans le quartier, ils pensent que ça peut être un acte politique. Moi, je trouve pas qu'il y a un acte politique. Je pense qu'effectivement, il y a 20 morts et non 17 morts ou 17 victimes. Il y a 17 innocents qui ont été tués. Il y a 3 coupables, enfin, en tout cas, 3 personnes qui ont assassiné. Mais il y a quand même 20 morts. Et que je pense que la maman d'Amédi, elle mérite, comme les autres, qu'on lui présente nos condoléances. Et considérer qu'il n'y a pas 20 morts, c'est nier la responsabilité de l'État dans cette organisation. Je pense qu'on doit réinterroger toutes les institutions, le fonctionnement des institutions, et on doit s'interroger. Et pour ça, on est obligé aussi d'interroger les politiques extérieures. Si on ne les interroge pas, ça n'a pas de sens. Quand on attaque des pays comme... c'est pas que je sois d'accord avec les uns et les autres, hein, c'est des tyrans, le problème n'est pas là. Mais quand les gens parlent d'internationalité, c'est à un moment donné... Les États, les politiques extérieures, elles ont fabriqué les Daesh et les trucs comme ça. Je veux dire, à un moment donné, que ces mecs-là viennent s'emparer des jeunes des quartiers ou du monde rural et tout ça, je veux dire, à un moment donné, tu es obligé de le regarder. Qu'est-ce qui fait que ces mecs-là, ils ont aujourd'hui une puissance sur la scène internationale? Qui les a fabriqués, si ce n'est les politiques extérieures? C'est en ce sens-là, on doit l'interroger. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place qui permette à ces gens de venir ici chercher des jeunes comme Amédi? Pour eux, l'unité nationale, c'est même pas un mot qui est venu dans leur tête parce que ça n'existe pas. C'est même pas l'unité nationale, elle est et eux, l'idée de l'unité. C'est pas un mot qui figure dans leur registre. Ça n'existe pas, l'unité nationale. C'est pas, c'est même pas que ça n'existe pas, c'est quelque chose qui n'apparaît même pas, qui se pense pas, qui se réfléchit pas. Donc, moi, je... Eux, ils l'ont entendu là, mais c'est la première fois qu'ils avaient entendu, tu vois, ça correspond à rien.
Il y a eu des trucs à Grigny, genre il y a eu des manifs.
Ouais, le maire a organisé, le maire de Grigny.
C'est ce que j'allais dire, il y a eu des cars qui ont été.
C'est tout de suite.
C'est quoi, il y a PC déjà ou...
Ouais, PC, ouais. Donc il y a eu un car qui est parti, mais je pense pas qu'ils étaient des 1000 et des 100, hein, là, sur, je sais pas, peut-être 50 personnes qui sont parties, il y aurait 100, allez, ou tu vois, c'est peut-être.
À
la manif.
À manif à Paris, de Paris, ouais. Quoi. Ouais.
Et ici, le maire a organisé une manif, une minute de silence, il a réuni le soir même quelque chose. Mais il y avait à peu près 250 personnes qui sont venues. Mais tous les militants associatifs, des représentants, tu vois, des gens qui sont des gens, j'allais te dire, encartés dans un mouvement. Deux secondes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement les habitants. Parce que les propos qui sont tenus par Malek Bouty.
Malek Bouty, député de l'Essonne, ayant perdu les élections à Grigny aux dernières municipales, nourrissant un ressentiment énorme vis-à-vis de tous les Grignois et particulièrement vis-à-vis du maire.
Toutes les confusions qui sont mises en place là-dedans, ça va générer une telle tension que demain, si ça explose, les projecteurs à nouveau sont sur Grigny. Et ce que j'ai peur aussi, c'est qu'aujourd'hui, la police, elle a un droit de tuer. Elle a le droit à la bavure. Tu vois ? Et donc, demain, il y a des gamins qui débordent, tu peux être sûr qu'ils vont les tuer, puis on justifiera. Ouais, mais c'est des terroristes qu'il y a ici, donc on peut tuer les gens. Bien sûr. Et moi, je pense qu'il faut apaiser les choses et non les. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut éviter à des enfants de se faire tuer, des jeunes de se faire tuer, des familles de vivre ce qu'elles vivent, et qu'à un moment donné, qu'il puisse y avoir. Je puisse leur donner les moyens de garder leur dignité, de défendre leurs principes. Et comme j'ai la possibilité de parler dans des lieux et tout, je me plais à. À leur dire que c'est des. Excusez-moi l'expression, que c'est des bouffons qui parlent de choses qu'ils ignorent totalement. Moi, ce que raconte Val, c'est ce que racontent les gens. Pour moi, c'est des menteurs. Et même s'il y a 90% de la population française qui les croit, c'est leur problème à eux, c'est pas le mien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les 90%, ils étaient derrière Pétain. C'est comme aujourd'hui, le barrage de Sivens, je veux dire, c'est un scandale. On tue un jeune homme là-dedans et puis d'un seul coup, il serait presque responsable. Tu vois, moi, je trouve ça honteux. Et puis là, les gens.
Ça en parlait ici.
Mais bien sûr.
Ce qui se passait à
Sivens. Ah ben bien sûr. Alors pas par tout le monde, mais il y a des gens qui considéraient tout. Puis
c'est quoi qu'ils en disaient les gens qui avaient un plan.
Bah eux l'ont vu simplement sur l'idée que des policiers ont tué un jeune homme. Mmh. Tu vois, sur l'idée qu'on peut tuer. Tu vois, et qui considèrent que le droit de tuer est permis et que la démocratie n'existe pas à l'état l'heure.
Et dans les quartiers comme ici, c'était je sais pas comment dire, il y avait une forme d'identification ou de compréhension de.
Non. Il n'y avait pas forcément, mais il y avait des gens qui sont des combattants, enfin, j'allais dire des combattants, qui sont un peu des guerriers, sont attentifs à ça. Et ont considéré qu'il y avait un combat qu'ils trouvaient juste, sans comprendre le sens et tout. Pas tout, mais qu'ils aient trouvé qu'il y avait des vrais. Le mot identification est un peu fort, mais quelque chose qui reflétait l'idée de guerrier. Tu vas me dire, voilà, ils se sont battus jusqu'au bout. Et, après, il y a des gens, je te dis, ils sont politisés, puis d'autres non. Des gens, ils sont surtout dans l'affect.
Et Malek Bouty, là, dans sa déclaration, c'est.
Mais il faut que vous lisiez le Figaro, tout ça. Vous avez vu hein, ce qu'il a écrit sur le Figaro?
Non.
Et c'est ce qu'il a écrit sur. Ah, faut lire. Oh là là, faut lire. Et le JDD d'hier, faut regarder ce qu'il raconte.
La compromission des élus locaux avec les.
Par exemple.
Les salafistes et les bandes. Ouais.
Par exemple, il dit des choses comme ça. Ou il traite les musulmans de nazis. Ah, tu vois, il fait des confusions. Mais ils sont timbrés.
Et c'est quels élus qu'il visait précisément?
Parce que c'est un. Le maire.
C'est le maire d'ici.
Ouais. Mais c'est scandaleux ce qu'il dit.
Mais c'est quoi qu'il entend par là
Ben c'est ça, ce que tu viens de dire. L'idée, c'est qu'il fait une. Lui, ce qu'il veut, c'est prendre cette ville. Donc il est prêt à augmenter les logiques sécuritaires en disant voilà, il joue la surenchère de ce qui s'est passé en disant voilà, c'est le maire qui a fabriqué Hamedi Coulibaly, c'est à cause de tout ça. C'est ça qu'il dit, concrètement, c'est ce qu'il dit. Hein. Et son idée, donc, et notre idée, c'est de dire on va mettre. Ce qu'il faut, c'est que les villes comme Grigny, faut les mettre directement sous tutelle
de l'État
parce qu'on ne peut plus gérer ces villes-là. Il y a tellement de mafieux, de banditisme, et même les élus sont corrompus, tout le monde est corrompu, les services, les acteurs, tout le monde. Et donc à un moment donné, voilà, il dit des choses qui sont détestables. Il allume le feu. Et demain, on va tuer des gamins pour des trucs comme ça. What will you give in your way? I saw them turn, stop, and listen to the people cry and say just the life is all I had out in a parade.
of centuries, people cried out and said, please, please, we want freedom, liberation, and just some help in this civilization. And though I heard the people say, what will you give in your way? I saw them turn, stop, and listen to the people cry and say, just a life. So like that, what did they do? What did they say to justify speaking this way? Hey, they just fought and often cried, and when they turned around, were shot down and died. Oh, but I heard the people say, what will you give in your way? I saw them turn, stop, and listen to the people cry and say, just a life. Zola had that, Munchie and John walked through this maze. They touched a million lives in a thousand ways, 70. Never knew them. 26 and 23 is all they were. Oh, can't you see? Didn't you hear the people say, what will you give in your way? I saw them turn, stop, and listen to the people cry and say, just a life is all I got.
Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des trucs qui vont se transformer, des mesures qui ont déjà été évoquées, la présence des flics?
Bien sûr. Enfin là, j'en vois pas beaucoup, je suis étonné de flics là. Je vois pas.
Il y a eu un camion quand même pendant.
Ah non, mais c'est pour les travaux.
Non, un camion de flics là quand même.
Ouais, mais c'est pour les travaux. Ouais. Je suis étonné, je ne le vois pas.
De vigile, et plus c'est un camion de flics pour les travaux. Oui,
Il y a une présence particulière depuis.
Rien du tout. Ils sont cachés. Mais rien.
Je sais pas, t'arriveras à repérer des tendances, un peu des évolutions du sécuritaire là.
Ah bah oui.
Depuis les ères Sarkozy, depuis avant, etc. Ah, c'est quoi un peu les différents moments.
Ouais, mais là, t'es en train de me parler de mon doctorat de ma thèse, ça. Donc, tu permets que je t'en parle pas tout de suite parce que je vais la sortir là maintenant. Là. Depuis qu'il y a l'ordre au gouvernement, il y a moins de flics. Okay. Mais, ouais, beaucoup moins de flics. Yeah. Cependant, la punition est toujours là. La représailles est toujours là sous une forme différente. Tu mets des mecs en prison alors qu'ils sont innocents, tu mets les conseils de. Parce que les gens pensent que sécuritaire, c'est simplement une idée de la police. C'est une erreur. Yeah. Le sécuritaire, c'est. Elle a investi tous les champs institutionnels. Par exemple, à l'école, tu vas à la grande borne, le collège, c'est là où il y a le plus de conseils de discipline et tu jettes les jeunes, par exemple.
Je ne sais pas comment tu vois ça, mais j'ai vu que les travaux, là, ils faisaient rentrer une desserte routière là, à l'intérieur du quartier.
Et c'est devant, là, juste devant. Là. Ouais.
Je me dirais que c'est un peu. Enfin, ça paraît.
Bah, c'est pour faire rentrer la police à l'intérieur.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais c'est les gamins, ils te le disent.
C'est clair qu'il leur manque un voie d'accès.
Voilà, c'est ça. Mais le préfet le reconnaît en tant que tel, hein, il le dit, lui. Ils ne le cachent pas. Et il y a beaucoup de gens qui se revendiquent du sécuritaire. Parce que dans leur tête, ils n'ont pas analysé ce que c'était sécuritaire. Pour beaucoup de gens, sécuritaire, c'est simplement l'extension de lois plus répressives. C'est pas vrai. Sécuritaire, c'est le nouveau paradigme de l'État. C'est une construction de l'État à part entière. C'est une organisation de l'État qui n'a rien à voir. Moi, je suis pour la sécurité. D'accord ? Je suis pour la sécurité au sens noble du terme. Hein, pas... Mais là, c'est pas ça. C'est le sécuritaire, c'est autre chose. C'est-à-dire, on prévoit la sécurité par l'armée, par des forces armées, quelles qu'elles soient, hein, des policiers, de ce que tu veux. Moi, je pense que le sécuritaire, il maintient pas la paix. Je pense que c'est tout le contraire. Que le sécuritaire, il absente la paix. Et que c'est son intérêt. Moi, je pense le contraire. Dans l'espace étatique, il y a ce qu'on appelle le droit de créance. D'accord ? Un droit de créance, c'est que un État se doit de protéger tous les habitants, quels qu'ils soient. Il doit tous les compter et les protéger. C'est un droit qui part de la Constitution de 89, mais qui revient aussi en 58, en 48, en 58. Il a été revoté là-dedans, surtout sur le droit au logement, sur un truc comme ça. Jamais il est appliqué. Au contraire, le droit de créance, on a tout fait pour l'étouffer, on n'en parle pas. Pourtant, le droit de créance, il existe vraiment. Mais le droit de créance, il peut être applicable que si oui, si et seulement si il y a un État. S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de droit de créance.
Mais t'imagines, dans des endroits comme ici, si... les gens arrêtaient d'attendre, tu vois, d'attendre, je sais pas, d'avoir des hôpitaux, d'avoir je sais pas quoi.
Et puis qu'on allait se battre.
Non, ouais, et que peut-être on allait se battre, et aussi qu'il y avait des formes d'autonomie qui pouvaient exister.
Ouais. Ça serait magnifique. dès les primaires, il y a des trucs dégueulasses. Alors au collège, je t'en parle même pas. Et au lycée, c'est un peu plus dur parce que les gens sont un peu plus vieux. Donc t'as plus de mal à les... Mais quand même, hein. Tu vois, là au collège, par exemple, j'ai vu des jeunes filles, les profs, hein, qui leur dit ouais, mais quand on est fini la pisse, hein, des profs qui disent ça, une gamine de 14 ans. Et en plus, parce qu'elle se rebelle, on la met en conseil de discipline. Et elle est virée. Tu vois, et les gens, ils parlent de ça dans le génie. Ils en racontent, tu vois, puis une fois, puis deux. Quand c'est une ou deux fois, ça va, mais quand c'est. Pas constamment, c'est pas vrai, mais que c'est souvent. Comment tu veux que les gens y réagissent? Et pour eux, Jamel Debbouze, dans une interview, je sais plus, sur TF1 ou Antenne 2, à un moment donné, il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, 30 semaines, il dit oui, mais moi je comprends, lui aussi, ça boule de premier ordre. Lui. Et à partir de là, il dit oui, mais non, il faut comprendre les jeunes des banlieues, ils sont dans la frustration. Non, ils ne sont pas dans la frustration, ils sont dans l'humiliation. Tu vois? Et je ne te dis pas qu'ils ont raison, mais il y a un processus d'humiliation qui est mis en œuvre. Et c'est de cela qu'il s'agit. Parlons de l'humiliation qu'on leur fait subir. C'est pas autre chose.
Il parle de Ogra ici. La Ogra.
Ouais. Comment tu sais ça?
C'est ton... Mais il en a parlé tout à l'heure. La Hagla.
Ouais, Hagla ou Hagar. C'est l'idée d'un processus d'humiliation qu'on organise. Avant.
Oui, parce que ce terme-là, il a été un peu. Je ne sais pas comment dire, il a pleuré au grand jour avec les révolutions arabes et tout ça.
Oui.
En Tunisie, tu sais, on parlait de la Ogra.
Ouais, mais il a existé déjà en Algérie il y a longtemps. Ouais. Il y a eu des manifestations en Algérie, contre, surtout chez Kabyle et tout ça, vis-à-vis des présidents. Et mais ça existait bien avant les révolutions. Ici, le mot, il existe bien avant la révolution tunisienne et tout ça. C'est un mot qui est présent. Moi, depuis que je travaille à Grigny, il a toujours existé. Tu vois, avant, il était utilisé simplement contre des familles qui faisaient ça à d'autres familles. D'accord? Donc, il y avait. Maintenant, on faisait à des familles, ceux qui n'ont pas de réseau. Aujourd'hui, quand on utilise le mot, c'est de dire que c'est la police qui fait ça. C'est-à-dire c'est l'État qui fait ça aux gens. Ils ont donné ce mot-là, c'est au processus, que ce soit l'école ou
l'humiliation des institutions.
Ouais, c'est l'humiliation des institutions. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'il est posé que comme ça. Il n'est plus posé aux familles. C'est ça le déplacement. C'est violent quand tu te dis ça. Et puis quelqu'un qui accepte ce qu'on appelle hagla, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pas un homme, c'est pas un homme ou une femme. Tu l'acceptes, t'es une merde. C'est-à-dire, t'acceptes, tu vois rien. C'est-à-dire que tu es une victime. Une victime ici, c'est très grave. Quand tu es victime, ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas de réseau, tu acceptes l'humiliation qu'on te fait subir, tu n'as pas d'honneur, tu n'as rien, tu n'es rien. Tu vois, c'est grave. Tu ne peux pas accepter que tu subisses ça. Ça les renvoie quelque chose.
Et c'est terrible parce qu'en fait, médiatiquement, par exemple, dans les discours qu'il y a, soit les discours sécuritaires, soit les discours de gauche qui, du coup, sont ultra victimisants par rapport aux banlieues. Quoi.
Tout à fait, tu as raison. C'est exactement ça. C'est inacceptable. Ça me révolte, mais alors. Et de gauche.
Je ne pas ça non plus, mais.
Mais en plus, je ne suis même pas sûr que ce soit de gauche, parce que dans le gauche, y compris ici, ils sont aussi dans le discours sécuritaire. Hein.
Oui. Non, mais on va dire dans la gauche de la gauche. Tu vois, par exemple, là, sur Charlie Hebdo, c'est exactement ça. Quoi. C'est-à-dire que les discours les plus critiques qu'on peut lire médiatiquement, c'est des trucs de merde, des analyses sociologiques à deux balles qui disent voilà.
On est d'accord.
On a fabriqué, mais un peu ce que tu disais au début. Quoi. Ouais. On fabrique des terroristes parce que les gens, c'est des victimes de la pauvreté, de l'inégalité. Ouais.
Et c'est pas du tout ça. Enfin, même si. Non, c'est pas. Il peut y avoir de ça, tu vois. Si peu, je te dis. Mais ça peut pas être une analyse, ça.
Non, mais que les discours de hiérarchie et de domination, ils existent, évidemment, quoi. Mais quand tu fais des gens, des victimes, enfin.
Bien sûr.
Politique est hyper.
Oui, mais tu sais quoi, en fait. Là, on est combien, là? On est 6. Allez, à tout casser, avec vous 6, là, sur Grigny, on va être une centaine à penser ça.
C'est énorme.
Mais c'est beaucoup, hein.
Ah, vous trouvez?
On n'est pas 100 à Dijon.
L'échelle d'une fois de. Les Black Panthers, ils étaient combien? À la base.
À Dijon, vous êtes, mais à Dijon, c'est pas Grigny. Là, il devrait y avoir des milliers de gens.
Voilà, alors ce qu'on tire de cette rencontre avec Hamid, qui était une très belle rencontre, c'est que face à l'espèce d'homogénéité du peuple français qui se lève, on est beaucoup à avoir besoin de réaffirmer une hétérogénéité, des différences, des oppositions, etc. Et les premiers discours médiatiques qui parlent de ça, parce qu'il y en a quand même, hein, des gens qui s'offusquent un peu de l'espèce d'éloge de la République aujourd'hui, ils réaffirment le fait que la France, elle est différente, il y a des dominations, il y a des rapports de force, les gens dans les banlieues, s'ils finissent terroristes, c'est parce que il y a des inégalités, etc. Dans ce que dit Ami, on comprend très bien que les deux réponses qui ne fonctionneront pas et les deux lectures qui ne peuvent pas s'opposer à celle de l'homogénéité républicaine, c'est d'apporter une réponse sécuritaire, c'est pourquoi, et d'autre part d'avoir une lecture victimisante de par exemple de Grigny ou de tout ça, quoi. Alors que l'hétérogénéité duquel on doit partir, c'est pas une hétérogénéité identitaire. De dire, ah, il y a des gens, ils ont subi, il y a des facteurs sociaux qui expliquent, etc. quoi. Et du coup, il y aurait besoin de les réintégrer, il faut les rééduquer, etc. Non, en fait, l'hétérogénéité qui va venir briser l'unité républicaine, c'est une hétérogénéité politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne veulent pas s'intégrer dans la République parce que la République, pour eux, c'est rien d'autre que les flics dans leur quartier, c'est rien d'autre que, je sais pas, l'humiliation perpétuelle tous les jours. Et c'est notre cas aussi ici à Vacarme en Réunion, on va pas s'intégrer dans l'unité républicaine, il va pas y avoir à nous rééduquer, il va pas y avoir quoi que ce soit. Et c'est une parole qui est forte parce qu'elle vient s'opposer à toutes les conneries qu'on a été pu dire sur les gens qui ne sont pas Charlie. Voilà.
Moi je voulais revenir un peu justement sur justement la question de la sécurité et du sécuritaire. Ça, c'est une manière de continuer le dialogue avec Hamid et de continuer d'ouvrir cet espace politique hétérogène à la République qui s'est ouvert avec cette rencontre. Et du coup, Camille, elle disait juste avant, voilà, le paradigme sécuritaire, c'est évident que ce sera pas une bonne réponse à ce qui se passe dans les banlieues et que lier les attentats et les banlieues par le sécuritaire, c'est complètement à côté de la plaque et ça fera qu'enflammer la situation. Et en même temps, en discutant avec Hamid, et peut-être que ça vous a fait tiquer vous aussi dans les extraits qu'on vous a passés, cette préoccupation pour la sécurité, Elle est assez présente. Et ce rapport à l'État, il reste présent, quoi. C'est-à-dire qu'il reste un rapport aux institutions par lequel passe le politique. Et du coup, ça a créé pas mal de débats entre nous à ce moment-là, qu'on n'a pas choisi de mettre dans les extraits. Et donc, je vais revenir là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette insistance de la question de la sécurité à Grigny, à la Grande Borne, etc. À un moment, Hamid, il nous disait, on lui demandait c'est quoi les problèmes concrets qui se posent aux habitants. Et selon lui, la première chose, en tout cas, qu'il nous a dit, c'est la sécurité. Donc, ça a fait bizarre, on s'attendait à... Enfin, on aurait bien aimé parler d'autres choses, qu'il y ait d'autres possibilités qui s'ouvrent, etc. Mais non, la sécurité vient comme une espèce de problème insistant, etc. Sauf que ce qui est intéressant, et ce qu'on entend particulièrement dans les extraits, c'est que quand on parle de l'AOGRA, quand on parle de l'humiliation, c'est l'humiliation que fait subir la police. Ça veut dire que... Dans ce qui crée l'espèce d'inquiétude des gens qui habitent en banlieue, la police, elle est au même rang que les autres comportements de prédation d'autres individus. C'est-à-dire que, et comme il le dit un peu plus tôt dans l'extrait aussi, le sécuritaire, il absence la paix. C'est-à-dire que la police, l'État, vis-à-vis de ses quartiers, ils sont dans une logique de représailles, de jugement, de punition permanente. Et donc le sentiment d'insécurité des habitants, il est notamment dû à ça. Voilà. Et donc à un moment, Hamid, il parle, il dit « moi je suis pour la sécurité au sens noble du mot ». Et en tirant un peu la couverture à nous, on pourrait dire « mais finalement, les Black Panthers dont on a parlé, dont on a entendu une chanson tout à l'heure, est-ce qu'ils ne venaient pas répondre à cette préoccupation-là » C'est-à-dire que les Black Panthers, c'est un mouvement d'autodéfense armé contre les violences policières qui vise à protéger une communauté contre un État qui s'est constitué en ennemi. Et voilà, et donc, qui vise à favoriser la vie de la communauté. Et donc, ce qui était intéressant avec Hamid aussi dans la discussion, c'est qu'il parle régulièrement de ce problème-là, la sécurité, etc. Et en même temps, ces propositions politiques, elles viennent jamais se poser la question de la police ou pas la police, du sécuritaire ou pas du sécuritaire, etc. Ces propositions, elles sont toujours positives, quoi. C'est organiser des choses pour les habitants avec les habitants, qu'ils soient des fêtes, qu'ils soient plein de choses affirmatives et qui viennent évacuer cette inquiétude et cette insécurité ressentie par un agrandissement de la richesse de la vie des quartiers. Voilà. Donc je voulais et ce qui était intéressant aussi dans cette discussion sur les sécurités et la sécurité, c'est que dans l'unité nationale dans le fait qu'une population soit massée sous prétexte de liberté d'expression derrière son État, derrière son gouvernement, etc., on a une refondation du contrat social. C'est-à-dire que à la base du contrat social, des théories du contrat social qui fondent l'État libéral moderne, il y a la question de la sécurité, elle est omniprésente, et c'est vraiment ça la pierre de touche, c'est vraiment là-dessus que se construit l'État libéral moderne, c'est assurer aux citoyens la sécurité. Et c'est pour ça qu'on va admettre que voilà, il y a une certaine part de notre liberté qui soit un petit peu rognée par l'État, etc., qu'on va composer comme ça. C'est parce qu'on accepte d'aliéner notre liberté en échange de la sécurité. Sauf que ce qui se passe dans ces quartiers-là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que l'État, c'est le facteur d'insécurité, un facteur d'insécurité notable. Et donc, ça vient complètement... c'est un coin, c'est une manière de faire brèche dans cette unité nationale et dans cette refondation de la République, c'est d'affirmer ça et de dire quels sont les moyens qu'on peut déployer, quelle politique autonome on peut déployer, les quartiers populaires plus nous, pour parer à ça. Voilà. Et Hamid disait, comme moi, comme les gens avec qui moi je lutte ici, on est une antécédence politique à l'État. C'est-à-dire que même si ce qui nous paraît problématique avec lui, c'est qu'il était beaucoup dans les institutions, beaucoup dans, justement, aller titiller les élus, aller titiller les institutions, etc., c'est qu'il dit on a une antécédence politique à l'État, c'est-à-dire que le rapport avec l'État, c'est qu'on en est extérieur, et on doit le forcer à nous respecter, on doit le forcer à aller dans la direction qu'il nous veut et que nous on veut. Et donc c'est là-dedans, c'est un peu sur ce point-là, sur cette ligne de crête, qu'il y a eu pas mal de discussions entre nous, et qu'à mon avis, il y a une politique qui peut s'élaborer en commun à partir de nos situations. Voilà. Donc maintenant, on va vous passer une petite musique. On continue notre tour du monde des terroristes intérieurs. Et maintenant...
Ouais. Tout à l'heure, c'était Hélène Brown, c'était Assassination. Hélène Brown, qui était une des figures de tête un peu des Black Panthers. Et du coup, c'était un petit clin d'œil aussi à l'énorme tag Of The Pigs qui est apparu au centre-ville de Dijon et dont le bien public s'était un peu gossé. Et maintenant, c'est...
l'hymne de l'armée de libération nationale zapatiste. Donc on vient parler de sécuritaire et un peu des débats que la question de la sécurité avait occasionné avec Hamid, et en décalant un peu la focale. Et maintenant, on aimerait, pour finir, prendre un peu à bras-le-corps ce problème du sécuritaire, parce que c'est quand même ça un des aspects de ce qui va se déployer politiquement dans les prochaines années. C'est ça qui a permis les attentats principalement, et ce qu'on va subir nous, c'est une espèce de retour en tambour de l'offensive sécuritaire. Et donc, pour introduire cette petite discussion finale, on vous a choisi un extrait d'une conversation avec Hassan Belmessous, qui a écrit un livre qui est paru en 2008 qui s'appelle Opération Banlieue. Voilà, Hassan Belmessous.
En 2008, le livre blanc, en gros, le livre blanc, c'est une sorte de cahier des charges qui finalement pense des stratégies militaires, le développement de la défense à moyen ou long terme. En 2008, le pouvoir sarkozyste a créé un continuum entre défense et sécurité nationale. Ça veut dire que l'armée peut être un acteur du territoire. Sécurité nationale, c'est ça. Évidemment, il y a eu les attentats de 2001, etc. Mais le raccourci banlieue intégriste terroriste, il répond finalement. Il fait quoi à ça? Les médias ont présenté ce livre blanc de la défense et de la sécurité nationale comme un livre blanc ordinaire. Faux. Depuis 2008, à travers ce conseil de défense, le président de la République a toute autorité d'envoyer l'armée sur le front intérieur. Quand le chef de l'État envoie l'armée en Afghanistan, il y a un débat au Parlement, qui n'est pas décisif, puisqu'il n'y a pas de vote, mais il y a un débat au Parlement. Il y a des citoyens français. Et juste pour finir quand même, deux secondes sur la gauche sécuritaire. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce numéro du Nouvel Observateur. À Dijon, la semaine dernière, ou la semaine d'avant, le PS a fait une sorte de séminaire médiatique, très médiatisé même, sur les questions de sécurité. Dijon, c'est la ville de François Rebsamen. Et Rebsamen est interrogé à un moment par un journaliste. Et dans les quartiers où la police n'entre plus au coup par coup, donc ça c'est la question du journaliste, nous y rétablirons l'ordre et la sécurité de façon pérenne. Une centaine de quartiers extrêmement difficiles sont aujourd'hui devenus des zones de non-droit où règne la loi du caïda. Il y a un socialiste qui parle de zones de non-droit alors que tous ceux qui y travaillent disent une chose, ce sont des zones de non-droit commun. Je pense qu'il faut quand même nuancer les choses. Donc il continue, la reconquête de ce quartier, reconquête de ce quartier sera longue, la bataille d'Alger c'était une opération de reconquête, et compliquée. Elle commencera par une présence prolongée des forces de l'ordre les plus expérimentées. Question du journaliste, en faisant appel à l'armée, réponse de Rebsamen, éventuellement. Les gendarmes savent très bien mener ces opérations de pacification, ils l'ont plusieurs fois démontré à l'étranger. C'était dans l'Express, dans le Nouvel Observateur. C'est en ça que je parle de guerre urbaine.
Voilà, donc c'était un enregistrement un peu daté, puisque le livre de Belmessous est sorti en 2008. Et donc c'était pendant la pleine expansion du règne de Sarkozy, etc. Comme le disait Hamid, à Grigny, il y avait des CRS partout, etc. C'est plus la même chose maintenant, et du coup il faut s'interroger sur quelles sont les nouvelles formes du sécuritaire. Il n'en reste pas moins que ce qu'il dit... le livre à défense, continuité entre défense extérieure et défense intérieure, possibilité de l'intervention de l'armée, armée comme acteur du territoire. On en a fait l'expérience très récemment après les attentats avec le plan Vigipirate. Voilà, et le plan Vigipirate, il s'inscrit dans ce schéma de l'antiterrorisme. Et qu'est-ce que c'est l'antiterrorisme aujourd'hui? C'est quelque chose qui, à la fois dans la guerre extérieure et dans la soi-disant guerre intérieure, opère une espèce de confusion justement entre la guerre et l'opération de police. Et ça va être caractéristique de ce qu'on pourrait appeler un état d'exception. C'est-à-dire, puisque c'est à la fois ce qui nous fait face est à la fois un ennemi et un criminel, il n'y a plus vraiment de cadre clair de comment on va lutter contre lui. Et du coup, ça donne toute libéralité à l'État et aux forces de police et aux forces armées d'intervenir. Ça mène à des conditions de tension qui peuvent, comme le disait Hamid, créer des moments où il va y avoir des gens qui vont être assassinés et où, puisqu'on est dans une espèce d'ambiance sécuritaire où on doit se protéger d'un ennemi intérieur, etc., tout ça va être gommé et certains meurtres d'État, comme celui qui a eu lieu avant les attentats et qui a été complètement gommé par les attentats, a joué les tours devant le commissariat, une affaire très trouble. Voilà, on est dans une espèce d'ambiance-là où finalement des choses peuvent arriver sans que ça nous pose plus de questions que ça. Voilà, donc c'était un peu pour finir sur le paradigme sécuritaire et le plan Vigipirate. On sait effectivement que ça, même les militaires le disent, que ça aucun intérêt pratique, c'est-à-dire que ça n'a jamais permis, c'est contre-productif d'un point de vue de prévenir les attentats. Par contre, ça nous habitue effectivement à voir l'armée déployée sur le territoire et à ce que le maintien de l'ordre soit effectué par l'armée et donc aille dans ce sens, dans l'espèce d'état d'exception. Voilà.
Bah pour terminer, on va se quitter en écoutant Serpine Seno, Opéra Incerta. Pour faire un clin d'œil un peu, pour finir notre tour du monde des musiques de nos ennemis intérieurs et tous nos amis, nos camarades accusés de terrorisme aussi actuellement. Et on dédie cette chanson à tous les notaves qui viennent de se prendre sur la gueule jusqu'à 140 années d'emprisonnement, je crois, au total de l'addition de tout ça. Là, juste il y a quelques semaines, on vous en reparlera mieux. Mais voilà, les notaves, tous les gens qui luttent donc contre le TGV Lyon-Turin, parce que malgré tous les plans Vigipirate et toutes les nouvelles lois antiterroristes qu'on risque de se prendre sur la gueule dans les années à venir, évidemment, tout ça va pas nous arrêter rapidement. Du coup, Serpine Seno, Opéra Incerta, Vacarme en Réunion, c'est dans 15 jours. Vous retrouvez tout ce qu'on vient de dire là et puis plein d'autres choses sur le blog tvnr.noblogs.org. Et si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à vnr@riseup.net. On est toujours friands d'entendre vos vomissements lorsque surgissent trop d'applaudissements policiers. Voilà, à dans 15 jours.
Arrivederci, siamo tutti notav.
Sai, l'unica differenza fra me e gli altri è che io ho preteso di più dal tramonto. Colori più spettacolari quando il sole arriva all'orizzonte.
Scrivo che se non memoro unico modo per mettermi a nudo, a parte quando sono lì tra le tue gambe prono, non così diverso dagli altri, da chi attacca a bottone solo per sbottonarti o quasi lavorarti i fianchi come da infanti, fugaci sguardi dagli ultimi banchi. Maledetto me, maledetta morte, interrogo la notte ma voglio risposte. Noste, facce toste, se mi specchio al cesso, a volte il meglio, a volte mesto. Reo confesso, vesto nero apposta, qua la posta in palio costa, dite chi si prostra, per amore brinda, leccandosi ferite, mangiandosi la crosta, resta un piede sulla crosta terrestre, uno sulla volta celeste, e tieni forte quando caghi verità indigeste, e non ripari al torto, questo è il volto del tumulto, ciò che vogliamo non è molto, è tutto, il mio demonio dorme, non lo svegliare, no, il mio demonio dorme, non lo svegliare, e non ripari al torto, questo è il volto del tumulto, ciò che vogliamo non è molto, è tutto, il mio demonio dorme, non lo svegliare, no, il mio demonio dorme, non lo svegliare. Scrivo, se non vincono loro no, se non di poi insegna che la serpe depone sempre dove non batte il sole, combatte il cuore per poter non battere più quando vuole. Maggiormente plagio, platalmente il tuo coraggio, già plasmo il mio viaggio da quando non mangio il plasma, d'accordo col budget d'ingaggio, pancia e coraggio di Giove e Gioite per poco, giochiamo col fuoco, Giordano sul rogo, se bruciamo la città prendendoci per mano godo, dandoci del tu con l'odio loro destinati all'estinzione dodo, dove vado trovo il ghigno dell'ignoto e provo con la libertà fai da te, sai che non ho serpi sotto di me, dimmi cosa osservi, osservi nel décolleté,
osservi nel décolleté,
e non ripari al torto. Questo è il volto del tumulto, ciò che vogliamo non è molto, è tutto. Il mio demonio dorme, non lo svegliare, no. Il mio demonio dorme, non lo svegliare. E non ripari al torto, questo è il volto del tumulto, ciò che vogliamo non è molto, è tutto. Il mio demonio dorme, non lo svegliare, no. Il mio demonio dorme, non lo svegliare.